Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec mon collègue Jean-Luc Dion, courtier hypothécaire commercial chez Multiprêt Commercial. On va avoir la chance de parler du nouveau programme APH Select de la SCHL. Jean-Luc, c'est quoi ce programme-là au juste?
Hey, merci Peter de me poser cette question-là. C'est mon premier podcast aujourd'hui. Je trouve ça le fun de commencer avec le programme qui prend de l'engouement de plus en plus, qu'on appelle l'APH Select. C'est un nouveau programme de la SCHL qui est sorti le 7 mars dernier. Vraiment intéressant, franchement. On n'était pas sûr au début, puis quand on a regardé le programme en fond en comble, ben, avec la hausse des taux d'intérêt, on s'est aperçu que peut-être justement les investisseurs vont avoir des nouvelles possibilités pour aller chercher peut-être soit plus de capital, des nouvelles options, on va en parler là. Mm-hmm. Mais en gros, si on garde l'APH Select, mettons la grande famille de tout ça, c'est un genre de grille de points, OK, qui est divisé en trois volets. Tu as la partie accessibilité, dans le fond, qui est plus pour les personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. Tu vas avoir une partie pour tout ce qui est efficacité énergétique. Et la partie peut-être qui nous intéresse le plus, c'est souvent l'abordabilité, où est-ce que la SCHL veut amener une partie à l'intérieur, dans le fond, de loyers abordables. On voit la hausse faramineuse, mm-hmm, des loyers, donc on sait qu'il y a des ménages à revenus un peu plus faibles. Donc, comment qu'on peut être capable de respecter? Puis je pense que la SCHL a bien ciblé pour avec sa grille de points pour être en mesure de faire ça. Puis ça donne un paquet d'avantages.
All right, excellent. Mais tu parles d'avantages, justement. On parle de quoi au niveau des avantages pour ce programme-là?
Bien, dans le fond, c'est au niveau des avantages, c'est que tu as plus de flexibilité, je te dirais, au niveau, dans le fond, du ratio prévaleur. Que contrairement au programme standard, on était limité à 85 % de la valeur d'emprunt. Mais là, on est capable de monter ça jusqu'à 95 % de financement. Ça voudrait même dire que si Jean-Luc, si tu veux acheter un immeuble avec 5 % 5 logements et plus, oui, ça serait possible. Mm-hmm. Tant que la valeur d'emprunt, la valeur marchande, la valeur économique nous permet de le faire, on va être capable d'acheter un immeuble avec 5 % de mise de fonds. C'est pas toujours le cas avec la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Mais c'est un des principaux avantages, surtout pour les investisseurs immobiliers qui veulent faire du levier. Ouais. Donc, je te dirais que c'est un des avantages principaux. L'autre avantage, c'est que pour nous permettre, ce que j'appelle toujours de pimper ma valeur économique, ben l'amortissement peut être plus long maintenant. Mm-hmm. Au lieu du 40 ans standard, on est habitué avec le programme actuel, on est capable d'extensionner ça jusqu'à 50 ans d'amortissement. Donc 50 ans.
J'imagine, par contre, évaluation marchande doit suivre en conséquence aussi. Si l'évaluateur me dit que ma durée de vie utile est de 35 ans, j'aurai pas 50 ans.
Des bonnes connaissances, mon cher Peter, effectivement. Et il faut que ça soit corroboré, dans le fond, par l'évaluateur en premier lieu. On sait que ça prend un rapport d'évaluation pour les 24 unités et moins avec la SCHL. Donc, il faut que ça soit la durée de vie économique restante doit correspondre, de raison. Si l'évaluateur dit qu'il en reste pour 37 ans, peut-être essaye de mettre 50 ans, ça fonctionnera pas. Là. Ouais. Donc, il faut que ça corrobore ça. En même temps, la SCHL aussi a un droit de regard selon la fameuse discrétion du souscripteur. Donc, s'il n'est pas d'accord, pourrait nous challenger là-dessus. Mais on remarque, puis j'imagine toi aussi, Peter, mais on remarque que la SCHL est plus tolérante, je pense, en niveau d'une durée économique plus grande maintenant ou un amortissement plus long.
Je pense que ça rend compte aussi les besoins de la SCHL pour la PH Select, comme tu disais, au niveau abordabilité, entre autres. On veut encourager ça le plus possible, peut-être ralentir aussi la progression des loyers. Donc, si on encourage un propriétaire en entrant dans ce programme-là, en limitant ses augmentations sur un certain nombre de loyers, ça rencontre l'objectif de la SCHL. Donc, on essaie, j'imagine, dans ce cas-là aussi, de rencontrer l'objectif de l'emprunteur.
C'est clair, c'est clair. Fait que l'amortissement, puis des fois, les gens peuvent se demander, ben, mon Dieu, c'est bien trop long. J'entends ça des clients, voyons, je ne peux pas amortir ça sur 50 ans, 45 ans, c'est beaucoup trop long. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, un amortissement plus long donne un paiement hypothécaire plus petit. Qui dit paiement hypothécaire plus petit donne un capital d'emprunt plus gros emprunté. Donc là, ouais, je viens de dire un indice que si on veut monter notre valeur économique, un amortissement plus long va nous le permettre. Fait que des fois, les gens disent « Ah, je fais un achat, ça me coûte, c'est pour être 15 % de mise de fonds avec le programme standard ou 5 % avec le programme APH. Et là, ça me prend 25, 35, puis on le voit avec la hausse des taux d'intérêt. Mais le fait d'amortir plus long le prêt, ça nous permet justement de minimiser la mise de fonds en question. Donc, ça peut être une solution, mais ça vient avec un à côté, ce programme-là, bien sûr. Surtout si on parle de l'abordabilité. Dans le fond, ce que la SCHL veut, c'est qu'on respecte, dans le fond, que le revenu médian, dans le fond, du secteur, puis ça, il est différent dépendamment de la région au Québec, soit, dans le fond, le loyer correspondant à ça, soit 30 % inférieur. Dans le fond, si on fait un calcul vite, on dit, mettons, que dans la loi, j'ai pas de chiffre actuel, mais mettons, on a, mettons, les régions rurales du Québec. C'est un chiffre que je connais parce que des fois, on veut faire une ville à un certain secteur. La SCHL donne une statistique qui est 36 000 par année. Donc, 36 000 par année fois le 30 %, ça nous donne 10 800. Si on divise ça par 12 mois, ça nous donne un loyer maximum de 900 $ par mois qu'on peut respecter. Dans la région de Montréal, quand on fait ce calcul-là, c'est 1090. Dépendamment des endroits, rive sud, rive nord, il y a des grosses différences.
J'ai vu 1220. Hein,
Laval, entre autres, Laval, effectivement, on serait à 1220. Il y a Gatineau aussi que le loyer est très fort à respecter. Et la SCHL ne fait pas de distinction dépendamment si c'est un 5,5, un 4,5, un 3,5, un 2,5 ou même un 1,5. Donc, il n'y a pas de distinction entre ça. Fait que c'est le loyer principal. Fait qu'on comprendra que les loyers, déjà avec plus petite surface, sont comme plus avantagés par ce programme-là que des 5,5 qui seraient déjà peut-être à ce montant-là ou supérieur à ça.
Tu parlais, dans le fond, d'un amortissement accru. Tu parlais aussi d'un pourcentage de financement accru, mais pour aider ma valeur économique, j'imagine aussi qu'on doit travailler sur le ratio de couverture de dette.
C'est officiel. C'est un des avantages principaux. Tu as tout à fait raison. Le fameux ratio couverture de dette, qui est un ratio, dans le fond, que les banques, que la SCHL utilise. Dans le fond, on prend les revenus de l'immeuble, on enlève les dépenses, puis ce qui reste de ça, c'est les profits. Okay? Donc, les profits, en comment je suis capable de payer ma dette. Donc, dans le fond, c'est la division entre les profits, ce qu'on appelle le revenu net d'opération, et la dette à payer annuellement. Donc, le fameux ratio de couverture de dette, dans le fond, habituellement, que pour les 7 logements et plus, c'est un ratio de couverture de dette que la SCHL va demander qui est à 1,30. Autrement dit, on veut que tes fameux profits, tes revenus nets d'opération, soient 30 % supérieurs à la dette qui est à payer. Mais dans le cas, dans le fond, de la SCHL, avec le programme APH, on vient abaisser ce montant-là à 1,10. Donc, on veut seulement qu'il soit 10 % supérieur. Sachant que c'est une grosse valeur dans le calcul de la valeur économique, on sait que, dans le fond, un ratio de couverture plus bas va nous donner une valeur économique plus haute. Donc, ce qui vient encore là faciliter ou augmenter les quotités de financement.
Ça va venir bonifier parfois même jusqu'à 20 % de valeur économique. Donc, c'est quand même intéressant. Mais sinon, tu as un autre avantage aussi lié au programme, c'est la prime allégée.
Tout à fait raison. La SCHL a sorti son attirail de bonbons, dans le fond, pour attirer son programme, parce que c'est un programme qui existait déjà, il faut quand même le dire, avant, qui était l'ancienne sur l'abordabilité, mais qui avait pas beaucoup de popularité. Alors que le nouveau, ils ont vraiment mis le paquet avec leur grille de points en fonction d'une prime SCHL beaucoup plus allégée. Dans le fond, selon la grille de points, si on en regarde, mettons, la grille commence à partir de 50 points et on peut aller jusqu'à 100 points, bien, on pourrait l'excéder, mais il n'y a pas plus d'avantages à excéder le 100 points. Mais dans l'abordabilité, mettons, parce que c'est surtout le core business qu'on rencontre, c'est qu'il y a comme trois phases. C'est soit que tu convertis, mettons, on parle d'une propriété existante, on met 40 % des loyers de cette façon-là. Dans le fond, on convertit 40 % des loyers en disant, ben, ces loyers-là, mettons, on est dans une région rurale, vont être en bas de 900 $. Fait que c'est 40 % de ces loyers-là, on va les convertir pour une période de 10 ans en passant, qui vont être convertis comme ça. Et la prime SCHL, sur le premier critère de points, va être autour de 2,25 %. Et va s'atténuer plus que de points. Dans le fond, dans la grille, tu atteins le 100 points, ben, tu vas obtenir une prime SCHL de 1 %. Alors que sur un financement 30 ans normal, on parle de quoi? 4,75 actuellement?
C'est ça.
Fait que, donc, c'est ce qui va être un avantage aussi considérable. Même si la prime est financée, ben, ça coûte moins cher à l'emprunteur.
Absolument. Parlons d'abordabilité. Tu en as quand même beaucoup parlé. Tu as parlé, entre autres, qu'on va déterminer notre abordabilité, entre autres, sur les revenus médians. 30 % des revenus médians des ménages dans la région où l'immeuble se situe ou dans une grande région proche, si évidemment ça ne fait pas partie de la région dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a des stratégies? Je te donne un exemple. Admettons que moi, j'ai un immeuble où le revenu médian des ménages serait à maximiser à 900 par mois. Et tout d'un coup, ben moi, mes logements sont autour de 920, 940, 960. Si je veux maximiser mon financement, est-ce que je pourrais aller même jusqu'à dire que je pourrais réduire des logements pour aller chercher plus de cash flow à la fin?
Tu as tout à fait raison, oui. Il y a des stratégies, on le voit plus avec le barème des constructions neuves. Chaque cas est un cas. Il doit être analysé vraiment habilement, je te dirais. Puis les banques ne sont pas encore familières encore avec le programme. J'ai plusieurs clients qui ont parlé du programme OPH, puis ils ne trouvent pas les stratégies ou ils ne comprennent pas que, ça, à certains endroits, peut-être qu'on utilise cette stratégie-là à baisser des loyers. Parce que en nouvelle construction, tout ce qu'on a pour accéder au programme, c'est on a besoin de mettre 10 % sur un 8 logements, c'est souvent juste un appartement.
C'est un appartement.
Où est-ce que tu vas dire, je vais le mettre plus bas, mais j'accède à des facilités beaucoup plus efficaces pour justement maximiser mon financement ou maximiser mon levier qui vont me permettre d'en construire d'autres. Donc, d'accélérer ça. Puis c'est contre la logique habituelle de penser ça. Parce qu'on a toujours pensé qu'il faut monter nos revenus, baisser nos dépenses pour être en mesure de craquer notre valeur économique. Mais là, il y a des nouvelles stratégies qu'en baissant peut-être un loyer, ben là, ça vient t'amener plus.
Ben là, tu l'as dit, imagine-toi sur un immeuble neuf, si je peux emprunter sur 50 ans à 95%,
c'est clair.
Puis que j'ai juste peut-être un ou deux loyers à diminuer, peut-être pour atteindre le maximum du programme APH, je vais peut-être en diminuer un peu plus, mais comme immeuble neuf, j'ai peut-être aussi la possibilité d'envisager un peu plus d'accessibilité, mettre par exemple une rampe pour les personnes handicapées, un ascenseur dans l'immeuble, si j'ai un immeuble un peu plus gros. Mais en bout de ligne, système de pointage va faire en sorte que je vais aller chercher beaucoup plus de cash flow, même si je n'ai pas nécessairement augmenté mes loyers au niveau que je l'aurais espéré. Mais ça, on parle de loyers puis d'augmentation des loyers. Si je sélectionne certains loyers dans mon immeuble, est-ce que je peux changer en cours de route?
Non.
C'est toujours les mêmes, tout le temps les mêmes.
Seulement, ce qui est déclaré, quand on soumet le dossier à la SCHL, on va soumettre ce qu'on appelle le rent roll, le registre des loyers. Dans le fond, mettons que tu as 8 logements, mais ton appartement 1 à 8, puis si on dit que c'est 50 % des loyers, ben ça va être l'appartement 1, 4, 6, 8, tu sais, qu'on va dire qui vont être ça. Et ça va être enregistré. Bon, bien sûr, il y a encore toute la mécanique. Là, le programme est en train de se bâtir. On voit beaucoup d'ajustements présentement. Comment ça va rouler dans le temps. Mais habituellement, ces appartements-là qui sont déclarés pour une période de 10 ans vont être considérés comme loyer abordable. Et c'est le prêteur, théoriquement, qui va être sélectionné, qui va avoir le fardeau de vérifier ça annuellement, s'assurer que ça a été correctement fait. Là, les gens me demandent souvent, mais c'est quoi l'augmentation que je peux donner? C'est l'augmentation du TAL, dans le fond, du tribunal administratif. Donc, moi-même, je suis investisseur immobilier, tu sais. Fait que théoriquement, des fois, on pouvait mettre, on négociait avec le locataire une augmentation qui, dans le fond, par rapport à des rénovations, par rapport à des ajouts de services. Mais là, il faut vraiment que tu viennes respecter tous les critères du TAL, puis il faut que ça soit validé. Fait que si l'augmentation est 1,3% pendant... Il faut que tu augmentes ton loyer à ce moment-là de 1,3%.
Si mon locataire quitte puis que je remplace par un nouveau?
Notre nouvelle vérification qu'on a faite tout récent, effectivement, on doit encore respecter. Puis ça, ça c'est une très bonne question. On doit encore respecter le loyer qui était là en vigueur.
On n'a pas le choix. Et si, admettons, je veux sélectionner moins... Parce que là, tantôt, tu parlais que pendant 10 ans, je dois m'engager comme propriétaire à augmenter les loyers sélectionnés en fonction du tribunal administratif du logement. Par contre, si je veux en nommer moins, mais que je veux m'engager sur plus longtemps, est-ce que ça se fait? Est-ce que je peux m'engager sur 20 ans?
Oui, effectivement. Effectivement, c'est un des autres avantages. Si un propriétaire voudrait aller jusqu'à 20 ans, il y a une bonification de je ne me souviens plus d'exactement combien de points qui pourraient être faits à ce moment-là. Pour être en mesure de mettre moins de loyer, mais ça va te donner, effectivement, tu dis, ce loyer-là, au lieu de 10 ans, ça va être pour 20 ans.
Et si je décide de vendre mon immeuble à l'intérieur du 10 ans que je me suis engagé puis que mon acheteur assume mon prêt?
Autre chose, dans le fond, qui va changer le marché, on va commencer à voir ça tarément dans des listings, mais le vendeur doit le déclarer. Comme de quoi qu'il a bénéficié de cet avantage-là de la SCHL. Donc, l'acheteur doit... théoriquement, continuer à respecter. Fait que si on est, mettons, tu me dis, après 5 ans, il a vendu son immeuble, le 5 ans restant doit continuer pour son logement à respecter ça. Donc, l'acheteur qui voudrait acheter par la SCHL va devoir, ils vont le savoir, dans le fond, corroborer par rapport à ça.
Mais tu disais tantôt que le contrôle de l'abordabilité va se faire par le prêteur. Fait qu'à chaque année, le prêteur va demander une liste des loyers puis il va s'assurer que l'augmentation respectait le TAL. Mais si je vends mon immeuble et que l'acheteur n'assume pas mon prêt, techniquement, mon prêt est payé, il n'y a plus de contrôle sur l'abordabilité, il se passe quoi à ce moment-là?
Ben, théoriquement... Théoriquement, l'avion se bâtit présentement en vol, OK? Les dernières vérifications qu'on a faites, l'emprunteur pourrait être considéré en défaut. C'est actuel le vendeur, autrement dit, par rapport à son prêt. Donc, comment la mécanique va se faire, comment les pénalités vont être appliquées, ça, ça demeure encore un petit mystère. On n'a pas encore tout élucidé. Il y a plusieurs scénarios. Quand je te dis que la SCHL a parti ce nouveau programme-là, il y a des options. Mais encore là, on ne connaît pas toutes les conséquences des gestes. C'est juste que ce qu'il faut savoir pour un emprunteur qui veut utiliser ce programme-là, c'est que théoriquement, c'est un engagement de 10 ans. Puis, dépendamment de ce qui va arriver, il peut avoir certaines conséquences.
OK, OK. Fait qu'on ne connaît pas encore nécessairement. Puis, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est pour rire. Je taquine mon collègue.
Parce ouais, que
j'ai
je pas sais mal
que,
bon.
Je sais que Jean-Luc n'a pas les réponses à tout, évidemment, parce que nous-mêmes, on pose les questions à la SCHL. On n'a pas tout le temps les réponses. Je pense que, comme tu le disais, l'avion se construit en vol. Et évidemment, il y a des éléments qui vont être clarifiés au fil du temps. On a fait le tour de l'abordabilité. J'aimerais ça maintenant qu'on parle d'accessibilité. On la définit comment?
Ben, l'accessibilité, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est personne à mobilité réduite. On parle peut-être de certains handicaps, quoique dans le fond, de la personne pas à pouvoir se déplacer. Dans le fond, ça peut être par chaise roulante, ça peut être parce qu'elle a besoin d'un ascenseur. Ça peut être... Il y a plusieurs facteurs qui sont habituellement régis par déjà... des écrits dans le code, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du code du bâtiment pour améliorer cette accessibilité-là, comme on voit dans certains lieux publics ou dans certains déjà des édifices. Donc, ça, si on veut s'en prévaloir, c'est pas la majorité où ce que je trouve qu'il y a beaucoup de points, théoriquement, dans la grille de calcul, mais qui peut être pratique, que votre immeuble est peut-être déjà conçu comme ça, qu'il faut savoir peut-être déjà qu'elle se qualifie.
J'ai
des fois.
J'ai peut-être déjà un ascenseur dans mon immeuble.
Et puis, je savais pas.
24 logements, puis j'ai un ascenseur.
Et voilà.
Exact. Je me qualifie déjà.
Tu as tout compris. Comme des fois, beaucoup de gens ont des loyers déjà abordables dans leur immeuble, puis ils ne savaient même pas.
Ouais.
Donc, parce que le loyer médian est quand même assez élevé. Là, dépendamment des régions au Québec, là, ça varie entre 617 et on a vu jusqu'à 1220, dépendamment des régions. Donc, pour revenir à l'accessibilité, théoriquement, si vous voulez passer par là, le mieux, ça va être de travailler théoriquement ce qu'on a besoin. Là, oui, il y a des formulaires à compléter au niveau de la SCHL, mais c'est souvent votre architecte qui va être capable de nous faire correspondre. Ben, est-ce que j'ai les tels critères que j'ai besoin pour répondre à l'accessibilité?
OK, OK. Fait que ça veut dire que, entre autres, si je suis constructeur puis que j'avais prévu construire un immeuble, je vais peut-être m'organiser pour avoir des logements qui vont être vraiment accessibles au rez-de-chaussée facilement sans avoir des marches ou à la limite peut-être prévoir une rampe d'accès ou quelque chose juste pour faire en sorte que mon immeuble atteigne le niveau de base de l'accessibilité pour aller chercher des points de plus.
Exact.
All right, ça c'est très bien. Et sinon, le troisième élément en APH Select qui est important, c'est l'efficacité énergétique. On la détermine comment, celle-là?
C'est drôle, c'est mon ancien domaine, c'est mon ancienne vie, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, dans le fond, c'est différent dépendamment du bâtiment existant ou d'une construction neuve. Okay? Mettons, on commence avec la construction neuve, on doit excéder le code du bâtiment. Le dernier code du bâtiment qui est 2015-2017.
Pour tout le monde, là, on parle du Code national de l'énergie pour les bâtiments 2017 ou du Code national du bâtiment 2015.
Exact. Merci pour la précision. Donc, tu dois excéder ce qui est là-dedans, de certains pourcentages. Au niveau du bâtiment existant, tu dois répondre à certaines mesures énergétiques. Puis là, ça va avec un pourcentage en fonction de l'économie, de la diminution des gaz à effet de serre. Donc, il y a un calcul qui est fait à ce moment-là. Ici, encore là, on a besoin, si on a un bâtiment neuf, peut-être l'architecte peut nous aider. Mais surtout dans le bâtiment, ça va être un ingénieur en efficacité énergétique qui va être capable de vous pondre un rapport, dans le fond, qui va démontrer c'était quoi l'énergie avant travaux, suite à vos travaux d'isolation, changement de fenêtre, tout ce qui est peut-être transformation du mazout à l'électricité, c'est quoi les économies potentielles qui vont être faites au niveau de l'énergie et au niveau des GES.
OK, parfait. Puis à ce moment-là, comme tu dis, c'est un ingénieur qui va nous aider à, dans le fond, définir cette partie-là. Pour un immeuble usagé, j'imagine que c'est plus difficile à atteindre, à moins que je sois en optimisation totale. Là, j'ouvre les murs, je refais l'isolation et là, j'imagine qu'on pourrait atteindre certains standards.
C'est exactement. Je te dirais que c'est pratique peut-être pour les investisseurs qui font beaucoup d'optimisation. Tu sais, les investisseurs qui font beaucoup d'optimisation, qui, j'appelle ça stripper quasiment un immeuble, Donc, souvent, ça vaut la peine de rajouter cette chose-là parce que des fois, ils le faisaient d'emblée, juste pour justement être capable de ramener l'immeuble à un état acceptable. Mais là, ils pourraient effectivement se qualifier pour des points importants que des fois, qu'ils ne connaissaient même pas avant.
Ouais.
Donc, je te dirais que c'est plus probable. Un propriétaire qui achète un immeuble déjà des années 70-80, il n'ira pas, si tout est fini, nécessairement ouvrir les murs, tout ça. Peut-être le changement de fenêtre, peut-être voir, peut-être l'isolation dans l'entretoit, mais...
On va viser plus l'abordabilité dans ces cas-là, probablement.
Je te dirais que la plupart de mes demandes, présentement, est basée sur l'abordabilité. Ouais. Je te dirais même 90. J'ai des premiers cas d'accessibilité qui rentrent. J'ai des premiers cas aussi d'efficacité énergétique qui rentrent. Mm-hmm. Parce que ça demande un peu plus de travail. C'est un peu plus lourd. Ouais. Alors que l'abordabilité, tu n'as pas grand-chose à faire, d'un sens. Au niveau du courtier hypothécaire, tu vérifies, bon, okay, on a des baux. On dit, c'est cet appartement-là. On n'a pas de formulaire, on n'a pas de rapport à soumettre. Mm. Donc, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'abordabilité qu'au niveau des deux autres volets.
Oui. Par contre, l'abordabilité, il y a un suivi annuel, ce qui n'est pas le cas des autres.
Ça, c'est sûr.
C'est fait qu'évidemment, quand on peut s'éviter ce genre de suivi-là, c'est encore mieux. Sinon, tu l'as dit tantôt, tu as déjà présenté des dossiers à PHSELEC et à la SCHL. Est-ce qu'il existe une différence au niveau de la souscription entre le programme traditionnel de la SCHL et l'APH Select?
Il n'y en a pas vraiment. Franchement, tu as une case à cocher de plus dans le formulaire pour dire que tu le soumets sous l'APH. Tu as bien sûr certaines choses, comme on parlait au courant du podcast, abordabilité, ben, j'ai besoin de soumettre. Dans mon rent roll, je le soumettais déjà, mais de rajouter c'est lesquels appartements qui vont être faits. Au niveau de l'efficacité énergétique, ça prend le rapport d'efficacité énergétique. Il y a certains formulaires supplémentaires, l'accessibilité, même chose, rapport de l'architecte et certains formulaires. Mais le reste, le processus est le même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la SCHL a un objectif d'ici 2030, si je me souviens bien, d'avoir converti X nombre en loyer abordable. Fait que quand vous soumettez maintenant un dossier APH et un dossier standard, ben, le dossier APH tombe sur le dessus de la pile. Ils vont traiter en priorité les dossiers APH. Bon, on est dans un bon temps présentement. La SCHL va beaucoup mieux que l'an dernier. On n'a plus des délais de 3 mois et même plus qu'on avait vu. La SCHL traite ses dossiers, tu me diras toi, Peter, mais moi, habituellement, autour de 3 semaines, habituellement, c'est pas mal fait. Tu es pas mal encore dans ce délai.
On est à peu près 3 semaines, 1 mois actuellement, mais effectivement, c'est quand même assez rapide. Dis-moi, dernière question avant qu'on termine, et ça, c'est, je vous le dis, c'est pas stagé, j'y pose la question, puis ça ne l'est pas du tout, mais penses-tu que la SCHL pourrait être tentée de faire de l'APH Select son seul programme dans le futur?
C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question.
L'ancien programme va finir par devenir désuet, étant donné les avantages du programme APH Select?
Ça, écoute, ça serait une bonne question à leur poser, mais théoriquement... Vois-tu, l'abordabilité serait sûrement un côté... Je pense pas que les deux autres volets seraient peut-être obligatoires, mais le volet de l'abordabilité, avec ce qu'on connaît présentement là, l'inflation des loyers, les pressions politiques, c'est peut-être fortement possible qu'à cette heure, il faudrait mettre un certain... Peut-être pas 40%, mais il faudrait peut-être obliger un certain pourcentage de loyer à loyer modique. Mais... Là, on rentre en politique, là, fait que c'est pour ça que...
C'est un autre sujet.
C'est pas ma meilleure partie, je te dirais, mon cher Peter, au niveau de la politique.
Alors, merci beaucoup, Jean-Luc. Merci tout le monde. Ça a été un plaisir de pouvoir vous accompagner aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le programme APH Select. Et puis, suivez-nous dans nos prochains podcasts. On a plein de belles choses à vous expliquer. Bonne journée, tout le monde.